Vous écoutez RTL.
RTL, jusqu'à 14h30, le grand quiz des histoires de France.
Bonjour madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Marseille. Ça vous l'avez compris, nous sommes installés à Marseille pour le mondial, la Marseillaise à pétanque. Un monde incroyable, plus grand festival de pétanque du monde, de l'univers, des siècles et des siècles. C'est ici à Marseille.
Oh, amen, hein, ça c'est une chose à voir une fois dans sa vie. En effet, la Marseillaise à pétanque, c'est un spectacle très impressionnant. C'est milliers de boulistes qui concourent dans les travées du parc Borély. Vraiment, c'est un événement qui ne manque pas de charme, hein, de piquant.
Alors aujourd'hui, évidemment, vous l'avez compris, on vous l'annonce depuis quelques semaines pour le Grand Quiz des Histoires de France. Il vous suffisait de vous inscrire si vous habitiez la région, évidemment, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour venir jouer avec nous en direct. Et il y a toujours l'intégralité des livres historiques Larousse. Il y a un ordinateur portable qui, je pense, va aller une demoiselle dans un instant. Il y a également un très joli séjour grâce à nos amis Symboles de France, Hôtel de Charme. C'est au château de Rigny, c'est à côté de Besançon. Voici un séjour pour 4 personnes dans ce château du 17e, aménagé en château, hôtel, restaurant. Enfin bon, c'est magnifique, avec des broiseries du 18e, un très joli parc. Je suis en train de le montrer à nos compétiteurs qui déjà se réjouissent d'y aller à 4. Ce sera évidemment pour la finale. Qui sont-ils? Ils sont évidemment de la région, ils vont vous le dire, parce qu'ils sont venus en direct ici au Mondial, la Marseillaise à pétanque. Tout d'abord, le papa qui est avec nous. Bonjour François.
Bonjour.
Ça va bien, mon François?
Ça va très bien, oui.
Merci d'être avec nous. Un peu impressionné, non? C'est Clémentine qui impressionne. Hein,
oui, c'est ça. Moi, je fais toujours cet effet-là aux hommes. Je les intimide. Hein.
Dites-moi, vous aimez l'histoire, c'est pour ça que vous êtes inscrit avec nous, hein, c'est bien ça?
Oui, tout à fait, Laurent.
François, vous habitez où exactement?
J'habite à La Brianne, un petit village des Alpes de Provence.
Près de Manosque?
Oui, une vingtaine de kilomètres.
Voilà. Et vous travaillez à l'ONF?
Oui, oui, l'Office national des forêts.
Des forêts dont on a bien besoin, qui fait un magnifique travail sur ce patrimoine que nous avons en France, que sont les forêts, qui sont entretenues et bien entretenues.
Il fait un travail difficile, hein, François. Il arpente les côtes des gorges du Verdon, hein, en barque ou en bateau ou sur les côtés. Il est en pleine nature et il vérifie que les touristes ne font pas de feux de forêt, c'est ça.
C'est ce qu'on a fait hier soir, une patrouille lacustre sur un lac, Gasparon de Verdon.
Ouais, c'est un beau boulot. Hein.
Un très joli boulot. François est venu avec sa fille Amandine. Bonjour Amandine.
Bonjour.
Quel âge tu as, Amandine?
14 ans.
4e. Tu t'intéresses un peu à l'histoire, Amandine?
Oui.
Quelle période de l'histoire t'intéresse?
La Révolution.
La Révolution et papa, qu'est-ce que c'est pour toi, François?
La Révolution aussi et l'Antiquité.
Révolution, Antiquité. Bon, alors vous savez que vous avez droit à un bonus. Hein, vous connaissez le principe de l'émission, il y a toujours le bonus. Il faut répondre à 3 questions pour avoir le bonus. Et aujourd'hui, vu qu'on est à Marseille, on a dit on va faire un bonus Provençalus.
Ah, qu'est-ce que ça donne?
Écoutez.
C'est sympathique, c'est Prime Sautier.
Fifres et Grelots, on y est, vous voyez.
Le bonus
Provençalus.
Provençalus, ça vous m'aurez tout fait, Laurent.
Ah, bah oui, celui-là, il est beau. Merci, mon Dédé. Ça, c'est notre technicien qui est à Paris, que je salue et qui nous met tant de bonne musique sous les explications que nous vous donnons, en rapport évidemment avec les qualités historiques du texte. Voici vos 3 questions, François et Amandine. J'ai envie de dire, et je le dis, bonne chance. Vous êtes prêts?
Oui.
Alors, on y va. C'est relatif, évidemment, à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et à vos affinités historiques. Écoutez bien, quel célèbre écrivain, auteur entre autres de Regain et du Hussard sur le toit, est né en 1895 à Manosque et mort en 1970 dans sa ville natale, à Manosque?
Jean Genot.
Bravo François, sans hésitation. Voici une deuxième question. Quel nom donnait-on au papier-monnaie sous la Révolution?
Les assignats.
Eh vas-y, qu'il est bon le François, il va tout seul. Sous quel nom est plus connu le révolutionnaire Honoré Gabriel Rigetti, surnommé l'orateur du peuple ou la torche de Provence?
Mirabeau.
Yeah! Oh, allez les amis, ça mérite. Eh François, le sans faute.
Bonus Provençalus.
Le bonus Provençalus, François, tu l'utilises quand tu veux. Vous l'utilisez quand vous voulez, pardonnez-moi. J'ai bavardé pendant une heure avec François. Donc
oui, mais c'est
un peu de
votre côté révolutionnaire. Vous aimez une certaine familiarité.
C'est tout moi, ça. Non, une convivialité, moi, je dirais. Une proximité que j'aime. Alors, les amis, on y est. Vous imaginez, on est installés là, en plein milieu de le mondial, la Marseillaise à pétanque, avec François et Amandine, sa fille. Le reste de la famille est là, évidemment. Quelques bonnes questions. Vous nous écoutez, vous avez bien raison. C'est le grand quiz des histoires de France. On se retrouve dans un instant.
Vous écoutez RTL. RTL.
Le grand quiz des histoires de France.
Laurent Boyer.
En direct d'RTL avec Clémentine pour ce grand quiz aujourd'hui avec François et sa fille Amandine qui viennent de Manosque, enfin près de Manosque à la Brianne, et qui jouent au grand quiz. On ouvre pour l'intégralité des livres historiques Larousse. Tout ça en plein air, au milieu des boulistes qui sont là, qui s'affairent, qui viennent nous voir, qui prennent des photos. Tout ça est très sympa, bon esprit. Ça va Amandine? Est-ce que tu es prête ma Amandine?
Oui.
Ouais, bien. Oui. On y va? On y va pour ta première question ?
Oui.
Allez, bonne chance, Amandine. Écoute bien. Au XVIIe siècle, Marseille fut le port d'attache des galériens. À ton avis, c'est vrai ou faux ?
Vrai.
Oui, Amandine, bien joué. Et Amandine, 14 ans, hop là. Aujourd'hui, questionnaire spécial Marseille, les amis, sur RTL. Alors, écoute, c'est vrai, tu as raison, Amandine. Et si l'on estime qu'entre 1680 et 1748, écoute bien, près de 60 000 forçats passèrent dans les galères de Marseille, Clem.
Oui, alors figurez-vous que le principe de la galère, c'est un héritage de la Rome antique. Vous avez tous vu, les auditeurs ici présents, vous avez vu Bénure avec les galériens. Et ben, en France, sous Louis XIV, on remet au goût du jour les galères. Et ce régime des galères, ce régime carcéral, ne disparaîtra que sous Louis XV. Il sera remplacé par le bagne.
Alors, après leur arrestation et leur condamnation, en fait, les futurs galériens étaient flétris. Alors, flétris, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement marqué au fer rouge à l'épaule droite des lettres G-A-L. Et puis, avant d'arriver à l'arsenal de Marseille, ils passaient en fait de longues semaines au cachot en attendant le passage à la chaîne.
Alors, chaîne, ça nous dit tous aussi quelque chose parce qu'on a tous vu Les Misérables avec Jean Valjean qui fait la chaîne. Alors, cette chaîne, c'était une épreuve absolument épouvantable à laquelle beaucoup succombaient. Et ce qu'on appelait la chaîne, en fait, c'était le voyage entre les différents lieux de France et Marseille. Et les chaînes les plus meurtrière est évidemment celle de Paris et celle de Bretagne qui demandait 5 à 7 semaines de marche.
Enchaînés au cou, écoutez bien, deux par deux, supportant de 15 à 20 kilos de chaîne et devant effectuer une moyenne de 20 km par jour. Vous imaginez avec 20 kilos autour du cou, évidemment battus, rançonnés, mal nourris, ça va de soi.
Mal nourris, non, j'imagine pas, non.
Parle tous les convoyeurs qui étaient là. Une bonne partie des forçats n'arrivaient pas à bon port. Et en fait, seuls les plus solides, comme vous, Clémentine, arrivaient au bout.
Moi, j'aurais tout à fait tenu le coup pour la chaîne de Bretagne, par exemple. Et malgré cela, malgré le fait que à bord des galères, les conditions de vie étaient absolument atroces. Il y avait 5 personnes par rame de 10 mètres, soit 300 kilos de rame à faire actionner. Et les galériens étaient enchaînés au banc pendant 6 mois, nuit et jour, d'avril à la Toussaint, à ramer.
Oh là là là. Il passait l'hiver aux arsenaux de Marseille, évidemment, c'était le repos, j'ai envie de dire. C'était à l'usine de poudre à l'époque de la Canebière.
Alors la majeure partie de ces galériens, qui étaient-ils? C'était des détenus de droit commun, bien sûr. Mais sous Louis XIV, beaucoup de galériens seront des protestants, condamnés aux galères à vie, uniquement parce qu'ils avaient hébergé un pasteur ou assisté à une assemblée secrète.
Incroyable.
Ou tenté de fuir à l'étranger après la révocation de l'édit de Nantes.
Ouais, ça paraît incroyable. Si vous avez vu Angélique Marquise des Anges, on est un peu dans cet esprit-là, quoi. Ils étaient toujours condamnés aux galères à vie, sauf s'ils abjuraient. On estime qu'il y a eu à peu près 2700 de ces galériens pour la foi.
Alors il y a un super livre sur ce sujet, Les galériens, vie et destin de 60 000 forçats sur les galères de France, aux éditions du Seuil. Et alors ce bouquin donne une statistique assez incroyable, c'est que selon lui, écoutez bien là, chers spectateurs, en 1700, un Marseillais sur 6 était un galérien, un ancien galérien.
Incroyable.
En 1700, c'est pas vieux tout ça.
Il conclut son ouvrage d'ailleurs en écrivant que ces galères, d'où un homme sur deux sortait vivant, comme vous le dites, étaient avant tout le plus grand pourrissoir d'hommes de France.
Oui, ça a dû être quelque chose. Marseille au début du 18e avec...
tous ces galériens.
Ça devait être quelque chose d'étrange.
Voici ta deuxième question, Amandine. Est-ce que tu es prête? Tu as déjà un point pour l'intégralité des livres historiques Larousse, ça c'est bon. Voici ta question, Amandine. Quel animal offert par le vice-roi d'Égypte Mehmet Ali au roi de France Charles X débarque à Marseille, donc, en 1826? J'ai deux propositions à te faire, Amandine, t'inquiète pas. Un chameau ou une girafe?
Une girafe.
Alors là, direct, vous avez vu, sans hésitation, ni rien. Je rappelle, 14 ans, Amandine, badaboum, elle fait une girafe et elle a raison. Un animal, c'était un cadeau diplomatique, en fait. Tout comme l'obélisque de Louxor, qui se trouve place de la Concorde à Paris, évidemment. On en a parlé avec Clem il y a 15 jours. Elle se prénommait Zarafa, la girafe.
Ah, il y a un dessin animé là-dessus, en ce moment
Zarafa,
même.
Ouais. Belle enfant des tropiques, c'était son surnom, en fait. Et fut la toute première girafe à mettre le pied en France. Bravo, Dédé, pour la visite.
Mais c'est pour ça qu'on s'en souvient. C'est la première girafe qu'elle met le pied en France, c'est Zarafa, c'est à Marseille. Un des tout premiers rhinocéros qui a mis pied en France, aujourd'hui ça nous paraît une chose banale, et ben c'était aussi par ici. Alors Zarafa, elle arrive à Marseille en octobre 1826. C'était une femelle de 2 ans, originaire d'Abyssinie. Et alors elle avait voyagé sur un bateau dont on avait dû percer le pont pour qu'elle puisse passer la tête. Et on embarque Zarafa avec 3 vaches laitières pour la nourrir, parce qu'il lui faut quand même 25 litres de lait par jour. Et par superstition, eh bien on accroche à son cou un panneau avec des versets du Coran pour qu'elle puisse supporter le voyage.
Ah oui, c'était vraiment un cadeau. C'est-à-dire qu'on lui faisait un cadeau au cou, là.
Alors c'était un cadeau, oui et non. En fait, c'est sur l'amicale sollicitation du consul de France et le consul d'Angleterre ayant lui aussi réclamé une girafe, Pénélope. Mais Pénélope, elle est morte en route. Il semblerait qu'en fait les Français soient rendus compte tout de suite que Pénélope était blessée, qu'elle n'avait pas la grosse forme. Et on n'a pas été, nous Français, très fair play. On l'a laissé Pénélope aux Anglais et nous on a raflé Zarafa qui semblait honnêtement meilleure santé.
En tout cas, chaque ville qu'elle traverse, écoutez bien, Zarafa va faire un véritable triomphe. Après avoir parcouru près de 30 km par jour, elle arrive donc à Paris, enfin en fait, hein, quand même, de Marseille. Et on se déplace pour la voir en cheval, en bateau. Même Stendhal va la voir.
Oui, il faut imaginer, ça a été un événement majeur, l'arrivée pour la première fois en France d'une girafe. Et le 30 juin 1827, elle arrive à Paris escortée par 25 gendarmes. Et le 9 juillet, elle est officiellement présentée au roi à Saint-Cloud. Et pour l'occasion, on lui a mis un beau collier égyptien et un manteau de cérémonie. C'est quelque chose. Et la reine lui tend des pétales de rose à Zarafa.
Bon, enfin, Zarafa, donc vous avez compris, on vous a raconté cette belle histoire de Zarafa. Elle meurt donc de sa belle mort. C'en est plutôt bien tiré si on compare la mort des girafes qui vont succéder au Jardin des Plantes. Hein.
Elles ont été boulottées pendant le siège de Paris. Les autres girafes, les Parisiens les ont mangées. Ont mangé des saucisses de rat et du pâté de chien. On a mangé Castor et Pollux, les éléphants. Et bien Zarafa, elle est morte de sa belle mort en 1845,
voilà
à l'âge de 21 ans.
Voilà l'histoire
elle
n'a
pas
première
fini
girafe.
À la casserole, la brave Zarafa.
Zarafa à Marseille. Voici ta troisième question, Amandine. Tu es prête?
Oui.
La célèbre anecdote de la sardine bouchant le port de Marseille est une galéjade marseillaise inspirée d'une vraie histoire. C'est vrai ou c'est faux?
C'est vrai.
Oui, bien joué, Amandine. Bravo. Et dites donc, Amandine m'aurait pas fait un sans faute, les amis. Applaudissements pour Amandine, s'il vous plaît. Sans faute, 14 ans. Ça veut dire qu'Amandine, elle vient de gagner l'intégralité des livres historiques Larousse toute seule. Hop là, sans l'aide de papa. Ça, c'est incroyable. Magnifique, Amandine. Bravo, bien joué. Alors, écoute-moi, l'histoire de la sardine, ma foi, les Marseillais qui sont là la connaissent, mais vous qui nous écoutez la connaissez peut-être pas. C'est vrai, sauf qu'à l'origine, il ne s'agit pas d'une histoire de sardine, mais d'un bateau nommé la Sartine.
Ben oui, tout à fait. Le Sartine, c'était une frégate qui portait tout simplement le nom du secrétaire d'État à la marine de Louis XVI. Alors peut-être que ça, nos amis marseillais, quand même, n'allaient pas jusqu'à connaître ce genre de détails. Antoine de Sartine, donc secrétaire d'État à la marine. Et ce fut d'abord un navire marchand qui pratiquait le commerce avec l'Inde avant qu'il ne soit affecté à partir de 1780 au convoiement de prisonniers français libérés par les Anglais.
Le 1er mai 1780, il reçoit par erreur 2 bordées de canons d'un vaisseau britannique. Vous les entendez, les boulets britanniques?
J'allais dire les damnés maudits anglais. Oui, oui, j'ai eu peur, moi aussi. Alors, Laurent, oui, par erreur, parce que les deux navires se sont emmêlés les pinceaux dans les pavillons d'entente. Ils n'étaient pas convenablement hissés. Alors, ça, c'est vraiment une erreur.
Bravo.
Une erreur de communication. Enfin, ce malentendu fâcheux provoque tout de même la mort du commandant du Sartine, qui est victime du boulet. Dommage collatéral.
Le problème, c'est que le bateau endommagé parviendra finalement jusqu'à Marseille. Mais le second du défunt capitaine n'étant pas très doué, écoutez bien, il est sous la Sartine entre l'entrée du port le 19 mai 1780, paralysant ainsi évidemment la circulation dans le vieux port. On ne peut plus rentrer, il y a la Sartine qui bloque.
Et voilà, et le temps passant, l'anecdote du Sartine bouchant le vieux port est devenue la célèbre galéjade de la Sardine bouchant le vieux port. Voilà.
Ce qui est amusant, c'est qu'on raconte en fait cette anecdote pour illustrer en fait la tendance à l'exagération des méridionaux, alors qu'à l'origine, c'est une histoire totalement vraie.
Oui,
donc, comme quoi, ma foi, comme on dit.
Je serais curieux de savoir qui ne connaissait pas l'histoire du Sartine et de la Sardine dans l'assistance, là, parmi les... Hein.
Personne ne veut te répondre,
non,
laisse tomber.
Ils veulent pas, ils veulent pas lever la main. Hein.
Allez, Amandine a très bien joué, elle a 14 ans, elle vient de faire un sans faute 3 sur 3. Son papa va jouer dans un instant. 2 questions pour François, mais juste pour du temps complémentaire pour la finale, et ça, c'est bien. Oh, le Festival Interceltique de Lorient, les amis, qui fête cette année l'Acadie, aura lieu du 3 au 12 août, et ça, c'est bien.
Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 14h30, le grand quiz des histoires de France.
Avec François et Amandine, sa fille Amandine, ici en direct au Parc Borély à Marseille, où est installée toute l'équipe d'RTL pour le week-end, pour ce mondial de Marseillaise à pétanque. Eh bien, sachez qu'Amandine, 14 ans, a fait un très joli score, 3 bonnes réponses sur 3, sans hésitation. Ça veut dire qu'elle a gagné l'intégralité des livres historiques Larousse. Elle est pas mal du tout, Amandine.
Et que du coup, son papa a encore le bonus Provence-Alus.
Le bonus est là, il l'utilise quand il veut. Tranquillou. François, vous êtes fier de votre fille, quand même.
Ah oui.
Elle a été très, très bonne. Allez, on y va, François. C'est pour vous. Deux questions. Bonne chance, François. Quelle est la particularité de la rue Tubano à Marseille? C'est le...
Oh, alors, mais monsieur n'habite pas Marseille. Vous, ça vous
C'est le premier nom de la Canebière, ou bien c'est là que le chant de guerre pour l'armée du Rhin devint la Marseillaise?
C'est là que le chant de guerre pour l'armée du Rhin devint la Marseillaise.
En 1792, elle envoyait 500 volontaires qui, tout au long de leur marche vers Paris, allaient chanter le chant de guerre pour l'armée du Rhin, mieux connu sous le nom de Marseillaise.
Oui, alors là, tous nos spectateurs connaissent ça par cœur, manifestement, mais ça fait extrêmement plaisir. Bravo. Alors, le 22 juin 1792, en fait, il y avait un banquet organisé rue Tubano devant le club des Amis de la Constitution de Marseille. Et vous connaissez alors tous aussi François Mireur, j'imagine, un certain François Mireur qui était originaire de Montpellier. Lui, il était chargé du recrutement de volontaires à Marseille et il entonne pour la première fois ce chant venu d'Alsace.
Alors, dans l'ardente atmosphère patriotique qui règne alors, car la patrie est en danger, il faut le dire, eh bien, François Mireur fait un malheur avec son chant qui est imprimé d'ailleurs dès le lendemain, Clémentine.
Tout à fait, et les paroles de ce chant vont être distribuées aux volontaires marseillais qui l'entonneront tout au long de leur marche vers Paris.
Et c'est pourquoi l'on peut voir une plaque commémorative en hommage à Rouget de Lisle, rue Tubano à Marseille. Ouais.
Et François Mireur, son nom n'est pas très connu, alors peut-être des Marseillais bien sûr, mais il fera une très brillante carrière, devinez auprès de qui certain général d'Empire. Alors oui, et alors il meurt, François Mireur, comme général d'Empire pendant la campagne d'Égypte, il avait 28 ans.
Eh bien écoutez, pour l'instant ça vous fait donc quelques secondes de plus pour la finale. 4 bonnes réponses sur 4 ici à Marseille avec François et Amandine, sa fille, d'excellents compétiteurs, où est installée toute l'équipe du studio du Grand Quiz des Histoires de France, avec un public qui est venu en masse supporter ses camarades de Manosque qui jouent avec nous. Vous savez quoi, ici au Parc Borély, comme à Paris, comme dans l'ensemble de la métropole, il est 14h.
Vous écoutez RTL.
RTL, jusqu'à 14h30, le Grand Quiz des Histoires de France.
Oh, dites-moi,
c'est notre bonus pour en salut, ça.
Un petit peu les cigales qui arrivent. Et ça, c'est le petit bonus pour François et Amandine, sa fille. Et je voulais à tous les deux le bonus, ils ne l'ont même pas utilisé, ils ont fait un sans faute pour l'instant. François, après, il me restait une petite question avant pour la série des livres historiques Larousse. On y va, François?
Je suis prêt.
Allez, on y va. Pas besoin du bonus, là. Qu'arriva-t-il à la flotte française basée à Toulon le 27 novembre 1942? Donc, il y a 70 ans cette année. Elle se saborde ou elle est coulée par les Allemands?
Et elle se saborde.
Eh bien joué, sans hésitation François. Il est très bon. Elle se saborde plutôt qu'effectivement de laisser l'armée allemande s'emparer.
Oui, voilà, et ça c'est une date anniversaire. On a quitté Marseille, on est à Toulon, mais il y a donc un anniversaire autour de cela. Et ce sont donc 90 bâtiments français qui se sabordent, autrement dit, qui se font couler délibérément et seront irrécupérables.
Quelques jours auparavant, évidemment, la zone libre a été envahie par les troupes allemandes. Hitler en personne donne à ses soldats l'ordre de s'emparer de la flotte française à Toulon. Cette opération prend le nom de Opération Lila.
Oui, mais alors cette opération constituait une violation de l'armistice de 40, parce que l'armistice de 40 prévoyait que Toulon demeurerait un camp retranché tenu par les troupes françaises de l'armée de l'armistice. Du coup, au moment où les chars allemands arrivent du côté de l'arsenal, les marins ont déjà été évacués, les équipes de sabordage ont été désignées.
À 4h40 du matin, les Allemands arrêtent le préfet maritime du port de Toulon. Mais son chef d'état-major parvient en fait à faire parvenir au major général de l'arsenal l'ordre de sabordage.
Et du coup, les explosions ont été déclenchées dans tout le port, si nombreuses et si tonitruantes que les Toulonnais ont cru qu'il s'agissait d'un tremblement de terre. Alors la plupart des bateaux sombrent corps et biens dans le port de Toulon et certains d'entre eux, les croiseurs Duplex, Algérie, Marseillaise, vont brûler pendant plusieurs jours. Donc au total, il y a simplement 5 sous-marins et un bâtiment de surface, le Léonore Fresnel, qui échapperont à la destruction, mais tout le reste a été à sombrer corps et bien dans la rade.
En conclusion, ce qu'il faut avant tout retenir du 27 novembre 42, c'est que la marine française a tenu son serment fait en 40 de ne jamais être livrée, se livrer à des mains étrangères. Donc Paris est serment tenu. Voilà. 5 bonnes réponses sur 5 pour François et Amandine. Moi je dis c'est un très beau parcours pour la première série de la compétition. Vous pouvez les applaudir, ils sont très très bons. Nos amis de Manosque, en direct à Marseille, je vous le dis. Et dans un instant, on va y aller pour l'ordinateur portable. J'ai l'impression que c'est pour Amandine, l'ordinateur portable, moi. 5 questions pour l'ordi portable avec un bonus à la clé. Vous écoutez le Grand Quiz, vous avez raison.
Vous écoutez RTL.
RTL, jusqu'à 14h30, le Grand Quiz des histoires de France.
Direct de Marseille avec François et sa fille Amandine. Cette fois-ci, c'est à François qui a la main de jouer. Est-ce que vous êtes prêt, François? Ça va bien?
Je suis prêt, Laurent.
Fier de sa fille. On y va, c'est l'ordinateur portable, hein, cette fois-ci. C'est pour Amandine, hein, l'ordi?
Oh oui, tout à fait.
Hein, Amandine, t'en as pas encore?
Si, j'en ai un, mais il marche plus.
Ah, je crois que ça va changer, là, ma fille. Je crois que ça va être pour toi, cet ordi. C'est bon, ça. Allez, François, on vous écoute. Voici la première question avec notre partenaire. Ça m'intéresse, histoire. Vous savez qu'on adore ça avec Clémentine. Et que vous retrouverez, d'ailleurs, le Grand Quiz des Histoires de France. Une page est consacrée dans Ça m'intéresse, histoire, chaque mois. Prêt, on y va, François?
On y va.
Allez, on y va. Quel surnom a-t-on donné à Louise Michel, qui était une grande figure de la commune? La Dame de Fer ou la Vierge Rouge?
La Vierge Rouge.
Et voilà, sans hésitation, une fois de plus, il est trop bon, François. La Vierge Rouge qui s'est illustrée comme l'une des meneuses de la Commune de Paris en 1871, une institutrice devenue une passionnariat de la Révolution, hein, c'est un peu ça.
D'où le rouge. D'ailleurs, rouge, bon, ouais. La Dame de Fer, bien sûr, c'est Margaret Thatcher. Hein. Ouais. Alors, pourquoi la Vierge? Parce que, Louise Michel était féministe. Elle refusait de se marier parce que pour elle, c'était une forme de soumission. C'était une militante très proche des socialistes sous le Second Empire et durant la Commune de Paris en 71, elle est devenue le symbole de cette révolution. Elle a été arrêtée, elle a eu un procès qui s'ouvre le 16 décembre 1871 et au moment de son procès, eh bien, elle provoque les juges et elle leur lance « Si vous n'êtes pas des lâches, tuez-moi. »
Oh, vous allez me refaire mieux que ça.
« Si vous n'êtes pas des lâches, tuez-moi. » Avec de l'écho, ça fait mieux.
C'est bon. Hein. Elle est condamnée, dites-moi, à la déportation en Nouvelle-Calédonie,
Louise
Michel.
Elle a passé 7 ans en Nouvelle-Calédonie et puis tous les communards ont été amnistiés, ce qui lui a permis de rentrer en France. Alors là, elle s'est remise à militer de plus belle et pour essayer de donner une survie aux idées de la commune.
En 1883, elle est à nouveau arrêtée pour une manifestation qui a vraiment mal tourné.
Ah, ça, elle aimait manifester. Alors là, après cette nouvelle manif, elle va repasser 3 ans en prison, mais ça ne va pas la calmer pour autant. En sortant, elle est toujours aussi active, elle parcourt la France dans tous les sens pour défendre ses idées.
Oui, mais quand même, affaiblie et malade, c'est au cours d'un déplacement à Marseille, justement en janvier 1905, qu'elle sombre dans le coma avant de mourir 4 jours plus tard.
Et oui, la grande Louise Michel est morte à Marseille, ici. Et son enterrement, le 21 janvier, sera suivi par des milliers de personnes. Elle n'a vécu que pour la Révolution, elle a été enterrée le jour anniversaire de la mort de Louis XVI.
Voilà, ça c'est à lire dans Ça m'intéresse histoire. Louise Michel, la Vierge Rouge, c'est avec notre partenaire et vraiment c'est toujours très intéressant. Bien joué François, le point est marqué déjà. Voici la deuxième question pour François. T'es prêt? Vous êtes prêt François?
Je suis prêt.
Alors on y va, écoutez bien. Quel est le sujet du livre historique écrit par Marcel Pagnol? L'histoire de Marseille ou le masque de fer?
Il s'agit du masque de fer.
Et allons-y, et vas-y, fais un sans faute François, tranquille. Il se balade, le masque de fer, Marcel Pagnol. Il a passé plusieurs années sur ce sujet, hein, Clémentine.
Oui, et alors ce qui est paradoxal et amusant, c'est que Marcel Pagnol, qui était un passionné d'histoire, était convaincu que c'est son œuvre historique, son œuvre d'historien qu'il ferait passer à la postérité, alors que ses films et ses pièces de théâtre et ses livres seraient oubliés. Donc au début des années 60, il s'attelle à ce sujet, le masque de fer.
Le masque de fer est ce mystérieux prisonnier qui a été gardé plusieurs années par Monsieur de Saint-Marc sur l'île de Sainte-Marguerite au large de Cannes.
Laurent, et figurez-vous que c'est Voltaire qui a commencé à populariser cette histoire. C'est lui qui a fait du mystérieux prisonnier, qui n'était sans doute masqué que durant les transferts d'ailleurs, le porteur permanent de ce masque de fer.
Et donc, Marcel Pagnol, lui, se passionne pour ce mystère historique.
Alors, il va se passionner, en effet, avec l'aide d'académiciens, mais la conclusion de Marcel Pagnol, c'est que le masque de fer était le jumeau de Louis XIV. Une première édition sort en 64 sous le titre Le masque de fer, mais il continue ses recherches et il en sort une nouvelle complétée en 73 sous le titre Le secret du masque de fer. Autant vous dire qu'il y a consacré du temps.
Ah, il aime ça. Hein. Cette enquête est le principal sujet qui occupe Marcel Pagnol les dernières années de sa vie. Ce sont d'ailleurs ses derniers livres publiés à Pagnol, l'histoire du masque de fer.
Il faut préciser quand même que depuis le temps, cette thèse a été complètement abandonnée. Et alors, bizarrement, Marcel Pagnol n'en a jamais fait un film, alors qu'il en existe plus d'une dizaine sur le sujet, dont la grande majorité d'ailleurs reprennent cette thèse du frère jumeau Louis XIV.
Deux bonnes réponses sur deux. Et pour l'instant, c'est un sans faute, François. Bravo. Hein. Voici la troisième question. Écoutez bien, quel film de 1970 est inspiré de la vie de Paul Carbone et François Spirito? C'est des gangsters ayant avant le règne du milieu marseillais dans les années 30. Hein, vous voyez ce que je veux dire. Ils ont régné dans ce milieu marseillais. Alors c'est Borsalino ou French Connection?
Je dirais Borsalino.
Bien joué, sans faute. Vous avez fait trois bonnes réponses sur Toura, François. Vous pouvez l'applaudir, les amis, François, parce qu'il est vraiment très bon. François, ça veut dire qu'à vous tout seul, vous venez de gagner l'ordinateur portable pour Amandine. Amandine, ça te va ou pas?
Oui.
Et fais un bisou à papa, il a été très bon. Allez, ça mérite, à l'aise. Yep. Ça, c'est de la radio, les amis. Et le bisou. Bon, allez, on y va sur Borsalino. Borsalino, Jacques Deray, Jean-Paul Belmondo et Alain Delon, évidemment.
Et voilà un film qui était tiré du livre Bandit de Marseille, écrit par un journaliste marseillais en 59, un certain Eugène Saccomano. Ça doit dire quelque chose.
Enfin, l'histoire aux Clémentines.
Exactement. Alors, dans le film, les gangsters prenaient les noms de François Capella et Rock Siffredi.
Et Carbone et Spirito, en fait, n'étaient pas aussi bandits au grand cœur que Belmondo et Delon dans l'histoire.
Alors, ces deux-là, ils s'étaient rencontrés en Égypte et ils ont commencé à bâtir leur empire sur la prostitution. Arrivés à Marseille, ils deviennent les caïds de la ville, ajoutant la contrebande et le trafic de stupéfiants, à l'époque l'opium, à leur activité générale.
On va dire ça, oui.
Voilà,
durant la guerre, ils seront plutôt du côté des occupants.
Oui, ils ont aidé la Gestapo, qui en échange fermait les yeux sur leurs activités. Et en 1943, Carbone meurt dans le sabotage d'un train par la résistance. Et à la fin de la guerre, Spirito fuit en Amérique du Sud, où il se spécialise dans le trafic de drogue. Donc, inutile de vous dire qu'ils sont quand même vraiment moins sympa que Delon et Belmondo.
Vous avez raison. Bon, allez, le sans faute est fait. 8 bonnes réponses sur 8. Il reste 2 questions pour Amandine. Il lui reste même son bonus Provençalus. Donc là, autant dire que c'est tranquille, hein, les amis. Vous avez bien joué, François et Amandine. Allez, on trouve Amandine dans un instant en direct de Marseille.
Vous écoutez RTL.
RTL, jusqu'à 14h30, le grand quiz des histoires de France.
Avec François et Amandine, deux très bons compétiteurs qui sont avec nous en direct. Ils habitent La Brianne, à côté de Manosque. Et ils ont fait un sans faute pour l'instant, et ça c'est magnifique. Amandine, c'est à toi de jouer. Du temps complémentaire pour la finale, tu as toujours ton bonus Provençalus. Et ça c'est une bonne chose. Tu es prête, Amandine?
Oui.
Utilise ton bonus, hein, quoi qu'il arrive. Ça te donne du temps en plus. Tu vois le petit... C'est bon, ça les fifre. Écoute bien, de quel nom Marseille a-t-elle été rebaptisée durant la Convention? Commune affranchie ou la ville sans nom, Marseille?
La ville sans nom.
Eh oui, c'est la ville sans nom. La ville sans nom, commune affranchie, était en fait à la même période le nom de Lyon. C'était
oui,
Lyon.
Tout à fait. Alors, au début de la Révolution, Marseille, on l'a dit, a adhéré avec enthousiasme aux idées nouvelles, puisqu'on l'a raconté. Marseille va envoyer les volontaires qui remonteront jusqu'à Paris en chantant la Marseillaise. Voilà, merci d'aider. Mais l'année suivante, la ville de Marseille, qui est très fédéraliste et qui a toujours été surtout très indépendante, se révolte contre la Convention, qui est, elle, très centralisatrice. Et des fédéralistes marseillais vont attaquer des députés de la Convention en route vers l'armée d'Italie.
Ouais, en représailles, évidemment, la Convention, on voit l'armée contre Marseille.
Exactement.
Au hasard.
Et le général Carteau va prendre la ville de Marseille d'assaut. C'est un vrai massacre. Des députés de la Convention viennent remettre de l'ordre là-dedans Place Royale, qui est devenue la Place de la Liberté. Il y a quand même près de 400 têtes qui vont tomber à la suite de cette révolte de Marseille contre le pouvoir centralisateur de Paris. Augustin Robespierre, d'ailleurs, le frère cadet de Maximilien, est à la tête de cette reprise en main.
Et un jour ultime, les conventionnels changent le nom de Marseille pour un nom qui n'en est pas un, d'ailleurs, puisque c'est la ville sans nom.
La ville sans nom, Marseille, c'est appelé la ville sans nom. Enfin, ça ne durera que quelques semaines, et puis elle reprendra de nouveau son nom.
9 bonnes réponses sur 9 questions posées pour Amandine et
François. Donc, là, on n'est pas loin d'un de nos records.
On n'est pas loin du record.
On va envoyer Thibaut Descroisades.
Ouais, ça sent ça, hein. Alors, le bonus Provençalus, tu l'utilises maintenant si tu veux, Amandine. Voici ta question. Qui prend Marseille en 49 avant Jésus-Christ? Vercingétorix ou Jules César?
Jules César.
Sans le bonus en plus. Alors là, Thibaut Descroisades.
Triomphe romain pour
toi. Triomphe romain.
Bravo.
Triomphe romain, Amandine et François. Ils avaient un joker, un bonus, ils ne l'ont même pas utilisé. Elle y est allée directement. Jules César vers Saint-Gétorix était déjà vaincu depuis 3 ans à cette date, en 49 avant JC.
Oui, pauvre gars, là, il devait être en piteux état en 49 avant Jésus-Christ. Alors Marseille, qui à l'époque est Massalia, était une fidèle alliée de Rome depuis 350 ans. Et il y a un traité qui liait les deux villes depuis qu'en moins 389, Massalia avait participé au paiement de la rançon versée à Rome au chef gaulois Brennus. Hein, ça vous parle
et
tout ça,
durant,
Laurent,
hein. Durant tous ces siècles, Massalia prospère à l'ombre de son puissant allié qui est Rome.
Et oui, mais voilà que Rome connaît une guerre civile qui se résume à l'affrontement entre Pompée et César, et Massalia refuse de prendre parti entre les deux messieurs. Et finalement, elle accueille les émissaires de Pompée. Alors César, pas content du tout, fait le siège de Marseille avec ses 3 légions.
Mais donc la ville est prise et dit adieu à des siècles d'indépendance.
Exactement, c'est à cette époque-là que Marseille a dû se soumettre à Rome. Toutes ses colonies lui sont confisquées et elle est intégrée à une province romaine qu'on appelle la Narbonnaise.
Bon, et j'ai envie de vous dire, Amandine et François, bravo. Vous avez carrément 1 minute 40 pour la finale. 3 questions pour partir à 4 à ce séjour. Hein. Vous irez, on vous le souhaite, au château de Rigny, à côté de Besançon, dans cette magnifique bâtisse. Donc, je vous ai montré quelques photos. On a mis évidemment sur RTL.fr. Tiens, tenez, François, je vous laisse rêver. À vous de laver déjà. Oui, c'est beau. Hein. Évidemment, cette finale dans un instant, direct de Marseille, juste après ça.
Vous écoutez RTL.
RTL, jusqu'à 14h30, le grand quiz des histoires de France.
Le grand quiz des histoires de France en direct de Marseille pour ce mondial, la Marseillaise à pétanque, évidemment, où est installée toute l'équipe d'RTL pour ce week-end, avec de très bons compétiteurs qui viennent de Manosque. Il y a François et sa fille Amandine qui sont vraiment très très bons. 10 bonnes réponses sur 10, qui fait totalité des minutes pour la finale. 1 minute 40 pour 3 questions et c'est la délivrance pour vous. Le château de Rigny, château du 17e. Séjour pour 4 personnes. Vous irez vous balader, nous envoyer une belle carte postale, les amis. Est-ce que vous êtes prêts, François et Amandine?
Oui.
Oui,
François. Oui, on est prêts.
Vous êtes prêts? Attention, on y va pour 1 minute 40. C'est parti, toc! Quel auteur dramatique, auteur entre autres de L'Aiglon ou de Cyrano de Bergerac, est né à Marseille un 1er avril 1868?
Edmond Rostand.
Bravo, François. Sous quel nom est plus connu le Marseillais Fernand Désiré Joseph Contandin?
Fernandel.
Eh, Fernandel, ça va de soi. Et enfin, quelle maladie touche très fortement Marseille à plusieurs reprises? En 591, en 1348 et en 1720.
La peste.
Yo! Alors là, que dire? En combien? Montre-moi, Claude. 29 secondes.
Vous allez rentrer dans nos annales, hein, parce que alors là, on va épingler votre photo dans notre bureau à Paris, à RTL.
Eh, François, et je peux vous dire qu'il connaît bien sa région, François. Ouais. Il n'a pas chopé sur une question sur Marseille. En plus, spécialiste de la Révolution française, de l'Antiquité. Mais là, Marseille, 10 bonnes réponses sur 10, plus les 3 de finale en 20, même pas 30 secondes. Ça, chapeau, François. Vous prenez le temps à quel moment d'étudier l'histoire? Comment vous faites, François?
Oh, je m'intéresse, je lis beaucoup.
Et vous retenez beaucoup aussi, hein?
Oui, heureusement, j'ai encore de la mémoire.
Ouais, bah, je vois. Et ça, ouais. Il est mnésique, lui. Il n'est pas amnésique,
Laurent,
il est mnésique.
S'il nous reste 1 minute, je crois que François voulait faire un petit bonjour.
Oui, je voulais remercier René et Françoise qui nous gardent notre petit Ludovic.
Ah, le petit. Et Amandine, elle prend le même chemin que papa, hein, parce qu'elle est très très bonne aussi en histoire.
Je crois qu'Amandine voulait dire bonjour à son ami Roméo.
Oh!
C'est même pas vrai,
elle dit. J'adore. Bon, Roméo, elle t'embrasse, Amandine, voilà. Elle se marre, regarde, elle a un sourire, j'adore. C'est ton Roméo à toi?
Oui. Ouais. Roméo.
Hein? Vous allez vous calmer, vous dites donc. Et il pleut en plus, hein? Oui. Ça va vous refroidir un peu.
Alors, justement, ça peut pas être pire.
Bon, dites donc, on n'a rien commenté de mon Rostand. Oui, également Chanteclerc, évidemment. Son arrière-grand-père, d'ailleurs, était maire de Marseille. Quelques précisions à propos de Rostand, mais ça, François, elle savait. Fernandel, évidemment, il est né en 1903 à Marseille. Ça va de soi. C'est vraiment celui qui a fait briller Marseille. Et puis, quelle maladie touche fortement à 3 reprises sur les 2 derniers millénaires Marseille, c'est la peste, hein, épidémie terrible. Dû à son rôle portuaire, en fait, à Marseille. Hein. C'est-à-dire que la peste arrivait d'ailleurs, amenée par les bateaux, les galères, les frégates. Et à chaque fois, évidemment, c'est parti de là et ça a contaminé l'ensemble du territoire. Clémentine, voilà de beaux compétiteurs. Vous allez mettre la photo d'Amandine et de François dans le bureau.
On compte sur vous.
10 bonnes réponses sur 10, ça c'est remarquable. Et il faut savoir que la semaine prochaine, on se retrouve, Clémentine. On sera également en direct cette fois-ci de Paris, après ce long week-end passé ici à Marseille, où d'ailleurs vous avez été remarquable ce matin à la compétition des personnalités de boules, je tiens à le préciser, puisque Clémentine a tout remporté.
À l'insu de mon plein gré.
Voilà, et là, tout le monde se marre. La semaine dernière, ce sera la dernière de la saison, Clémentine. Dites-moi, François, vous allez nous envoyer une petite photo de votre déplacement quand vous serez à Rigny ou pas?
Oui, on vous enverra ça.
Vous allez partir avec qui? Votre femme, Amandine, et le petit Ludo, du coup, qui est gardé par vos amis, c'est ça?
Oh, bon, on va voir. Si, comme on a un camping-car, peut-être qu'on pourra s'approcher et voir avec ça.
Avoir du monde en plus. Et c'est bien, il va emmener le camping-car dans le château, lui. Il ne va pas aller loger au château, il garde son camping-car, il est peinard. Écoutez, on va aller faire un tour du côté du Tour de France avec le Tour est parti. RTL est sur la route du Tour, ça va de soi. Évidemment, c'était bien. On a passé un très bon moment ici à Marseille, sous la pluie aujourd'hui, mais sachez qu'il y fait toujours beau. Il y a toujours du soleil dans le cœur des Marseillais.
Vous écoutez RTL.